רבן גמליאל היה אומר, עשה לך רב והסתלט מן הסופק ואל תרבה לאסר המדות. רבן גמליאל nous enseignait la chose suivante. Fais-toi un rav, écarte-toi du doute, et lorsque tu prélèves le maaser, ne le prélève pas de manière approximative. Nous avons donc ici trois enseignements, et nous allons essayer de comprendre, entre autres, comment ces trois enseignements sont reliés les uns aux autres. Le premier enseignement, nous le rappelons, « Asel harav », « Fais-toi un rav ». Nous rapporte les commentaires qu'il y a là apparemment une répétition du Pirkei Avot. Pourquoi ? Parce que déjà dans une Mishnah précédente, le Pirkei Avot nous avait déjà enseigné « Fais-toi un rav »,« Asel harav ». C'est donc la deuxième fois que le Pirkei Avot nous répète ici le même enseignement. « Asel harav »,« Fais-toi un rav ». Donc apparemment, évidemment, le Pirkei Avot a l'air de bien insister sur ce point. La question est pourquoi se répète-t-il ? Nous dit le Rambam qu'il y a en vérité ici deux enseignements différents. Asse le harav, fais-toi un rav, qui était ramené dans la Mishnah précédente, n'avait pas du tout la même signification que asse le harav, trouve-toi un rav, que nous retrouvons ici. Lorsque la Mishnah nous avait déjà dit une première fois asse le harav, c'était donc dans une optique tout à fait différente. C'était assez le harav que nous avons vu précédemment concerne en vérité le limud Torah, l'étude de la Torah. En d'autres termes, lorsque tu étudies la Torah, nous dit le Pirkei Avot, n'étudie pas seul. Trouve-toi un rav qui t'enseigne et qui peut te permettre de mieux comprendre la Torah. Comme ça, nous dit également le Rambam, tu oublieras moins la Torah. Lorsque le Pirkei Avot nous dit ici « Asse le harav »,« Trouve-toi un rav », ce n'est pas pour nous enseigner la Torah. Ce n'est pas quelque chose qui touche à l'étude de la Torah comme dans la Mishnah précédente. Ici, nous dit le Rambam, nous avons affaire à une application pratique de l'étude. Non pas à l'étude elle-même, mais à une application pratique de l'étude. Autrement dit, lorsque nous nous trouvons en face d'un problème halakhique, on nous amène par exemple un animal et nous ne savons pas si cet animal est trèfle ou s'il est cacher, par exemple. Alors dans ce cas précis, la Mishnah nous dit, là aussi tu dois te trouver un rav. Nous explique Rashi la chose suivante, tu ne dois pas seulement t'appuyer sur tes connaissances. Tu ne dois pas seulement, même si tu connais la Gemara, même si tu connais le Shulchan Aruch, même si tu as déjà étudié et qu'il te semble et que tu as l'impression de connaître le cas, le problème qui se pose devant toi, et que tu puisses le résoudre par toi-même, là encore, n'hésite pas à trouver un rav et à lui demander si effectivement l'animal est kasher ou taref, comme toi tu en as déjà l'impression. Le Meiri va même plus loin. Il nous dit que lorsque l'on a affaire à un problème, que l'on se trouve en face d'un problème halakhique, d'un problème pratique, comme celui que nous venons de ramener, nous ne devons pas seulement chercher un rav. Si nous ne trouvons pas de rav, nous devons essayer de prendre conseil même d'un ami, même d'une simple chevruta, et même de quelqu'un qui éventuellement sait moins que nous. Parce que même s'il en sait moins que nous, peut-être nous éclairera-t-il sur certains points que nous n'aurions pas vus sans lui. Et cela, effectivement, va nous mener directement à l'enseignement suivant. Istalek minasofek. Écarte-toi, retire-toi du doute. Pourquoi est-ce que l'on doit chercher un rav lorsqu'on est face à un problème? Et si on ne trouve pas de rav, même un raver, n'importe qui, toute personne qui peut éventuellement nous aider à trouver le problème, nous dit le Pirkei Avot, parce que nous devons nous retirer, nous écarter du doute, nous éloigner du doute un maximum possible. Nous dit ici le Maharal, il nous donne en tout cas une explication intéressante. Akadosh Baruch Hu, nous dit le Maharal, a donné à l'homme la raison, le sechel, le das. C'est cela qui principalement différencie l'homme de l'animal. L'homme est doué de raison et pas l'animal. Cela, bien entendu, non seulement l'autorise à se servir de la raison, mais l'oblige à s'en servir. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a donné la raison à l'homme. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a donné la raison aux Juifs. Afin qu'il s'en serve lorsqu'il doit pratiquer les mitzvot. La raison peut permettre aux Juifs qui veulent faire les mitzvot de distinguer le bien du mal. Seule la raison lui permet effectivement de prendre des décisions qui sont les bonnes décisions. Sans la raison, on reste dans le doute, on reste dans l'incertitude, on ne sait pas vraiment où on en est. Et nous dit ici le Maharal un point très intéressant. Ne t'imagine pas que lorsque Kadosh Baruch Hu t'enjoint de réfléchir pour savoir ce que tu fais, que si tu as déjà réfléchi et que tu restes dans le doute, alors tu as fait tout ce qui était en ton possible. Tant que tu réfléchis et que ta réflexion, même si elle trouve différentes possibilités, même si elle te met en face de plusieurs solutions, tant que la raison, tant que ta réflexion ne t'a pas permis de trancher définitivement, de savoir ce que tu dois faire et où tu dois aller, c'est comme si tu n'avais rien fait. Le das, le sechel, la force de réflexion qu'Akadosh Baruch Hu a mis en l'homme, qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans le juif, ne trouve une raison d'être que si le juif arrive jusqu'au bout de la réflexion. C'est-à-dire qu'il arrive à un point où maintenant il sait quoi faire, où maintenant il sait où il va aller. Tant qu'il reste dans le doute, tant qu'il reste dans l'incertitude, tant que sa réflexion reste coupée de l'action, sa réflexion, autant il pourra réfléchir, ne vaut rien, n'a pas de valeur. C'est ça la réflexion. C'est ce qui nous permet de trancher, d'arriver à un but précis et de savoir là où on va. C'est ça la pratique des mitzvot. Ve'al terbe le'aser amadot. Nous allons maintenant en arriver à aborder le dernier enseignement de cette Mishnah. Nous avons déjà dit « Altarbele aser ma'adot » lorsque tu prélèves le ma'aser, ne le fais pas de manière approximative. Fais-le de manière exacte. Alors là, nous allons faire une petite introduction afin de mieux comprendre cet enseignement. Nous allons faire une petite introduction sur les halakhot de ma'aser. Si nous avons par exemple 100 fruits devant nous, n'est-ce pas? Ces 100 fruits-là sont indignes de tevel. Ça veut dire quoi tevel? C'est qu'on n'a pas le droit de les manger. Il nous est strictement interdit de les manger tant qu'effectivement on n'a pas fait tous les prélèvements obligatoires. En quoi consistent ces prélèvements obligatoires? Ils consistent d'abord dans ce que l'on appelle la Trouma Gdola, premier prélèvement. Ne vous inquiétez pas, on n'enlève pas tout. Ce que les sages nous ont dit que l'on devait prélever en ce qui concerne la Trouma, c'est à peu près 1/50 des fruits que l'on a, donc il en reste encore pas mal. Le deuxième prélèvement, c'est qu'on doit enlever 1/10 de ce qui nous reste. C'est ce que l'on appelle le Maaser Rishon. Et il existe un troisième Maaser qui, selon les années, peut être soit Maaser Sheni, soit Maaser Ani. Sauf l'année de la Shemitah, où là, on est dispensé de tous les prélèvements. Prenons le cas du Maaser Rishon. Le Maaser Rishon, on doit enlever 1/10 de nos fruits pour les donner aux Lévi. J'ai par exemple... Il me reste, par exemple, après le prélèvement de la Trouma, disons, bon, je ne suis pas très fort en mathématiques, disons, il nous reste 90 fruits, oui, un exemple. Alors, je dois prélever exactement 9 fruits et les donner au Maaser Rishon, et les donner au Lévi. Si je prélève moins de 9 fruits, alors, je n'ai pas rempli mon obligation de prélever le Maaser. Que se passe-t-il, par exemple, si je prélève 12 ou 13 fruits? Alors à ce moment-là, j'ai fait le maaser, et même plus que ça. Apparemment, c'est très bien. En vérité, c'est pas bien du tout. Parce que, comme je vous le disais, tant que je n'ai pas fait tous les prélèvements, alors les fruits restent interdits. Ils sont ce qu'on appelle, comme nous l'avons dit, tevel. Imaginez maintenant qu'il me reste 90 fruits devant moi. Si je prélève 9 fruits plus les autres prélèvements, alors tous les fruits qui restent ne seront plus tevel, seront roulés, mais j'aurai le droit de les manger. Mais si... Sur les 90 fruits qui restent, je prélève 12 fruits, c'est-à-dire 3 fruits de plus que ce que je suis enjoint par le Maaser. Ces 3 fruits de plus-là resteront interdits. Pourquoi? Ils ne rentrent pas dans la catégorie de Maaser, puisque le Maaser, c'est 9 fruits et pas plus, mais ils ne rentreront pas non plus dans la catégorie de Houlin. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas autorisés comme le seront autorisés les autres fruits sur lesquels j'ai fait le prélèvement. Je n'aurai donc pas le droit de les manger. C'est pour ça, nous dit le Pirkei Avot, que l'on ne doit pas faire le prélèvement, le maaser, de manière approximative. Parce que si j'ai des dizaines, des centaines de fruits, et même peut-être, souvent il ne faut pas tant que cela, et que je ne compte pas les fruits, que je ne prélève, mais que je prélève de manière approximative sans compter, alors je vais nécessairement faire une, très probablement une avéra. Si je n'en prélève pas assez, alors je n'aurai pas fait le maaser. Et si j'en prélève de trop, alors les fruits que j'aurai prélevés en trop seront toujours interdits et je ne le saurai pas. C'est pour cela qu'il faut compter, il faut être exact dans le prélèvement du maaser. Rabbi Yona nous dit ici que le Pirkei Avot ne s'occupe pas d'alachot concernant le maaser, bien entendu. Lorsque le Pirkei Avot nous prend l'exemple du maaser, c'est pour nous apprendre quelque chose dans la conduite de notre vie pour le reste des mitzvot. À savoir que lorsqu'il s'agit de la pratique des mitzvot, il faut être exact. Il ne faut pas se contenter de l'approximatif, de l'à peu près. Il faut s'investir complètement dans l'acte que l'on va faire et le faire de manière le plus exacte possible. Et cela, bien évidemment, nous relie à l'enseignement précédent où on nous disait « éloigne-toi du sophek, éloigne-toi du doute ». Ça veut dire quoi « éloigne-toi du doute » ? Agis de manière à ce qu'il ne subsiste aucune incertitude. Spécifiquement lorsque tu fais des mitzvot. On voit souvent, n'est-ce pas, notre inclination naturelle nous pousse d'une manière générale plutôt au contraire. Lorsqu'on a un business, lorsqu'on a un métier, lorsqu'on doit gagner de l'argent, alors là on est très précis, on fait les comptes avec le maximum de précision, on ne laisse rien dans l'ombre, on ne veut pas perdre d'argent. Mais par contre, lorsqu'on arrive au mitzvot, bon, on a l'impression que, bon, déjà parce qu'on fait des mitzvot, c'est déjà pas mal. Alors, bon, si on le fait approximativement, c'est pas terrible. Le Pirkei Avot nous enseigne le contraire. C'est lorsque tu fais des mitzvot, que tu dois être précis, que tu dois complètement t'investir. C'est là-dessus que se joue ton avenir, c'est là-dessus que se joue ta vie. Et pas seulement ton monde futur, mais également ta vie dans ce monde-ci. Le roi Chaim, Rav Chaim de Volozhin, dans son commentaire sur le Pirkei Avot institué roi Chaim, nous ajoute ici un autre enseignement. Revenons au début de notre Mishnah. Notre Mishnah nous dit « Aselecha Rav, fais-toi un Rav, veistalek mina sofek, de manière à t'écarter du doute. » On pourrait très bien poser la question, pourquoi faut-il s'écarter du doute ? J'ai, comme nous avons dit tout à l'heure, une viande. Je ne sais pas si elle est trèfle ou je ne sais pas si elle est cachère. Où est le problème ? Pourquoi aller chercher un rave ? Pourquoi se casser la tête ? Pourquoi s'investir ? Il y a beaucoup de choses à faire dans la vie. Je n'ai pas tellement le temps. Il y a de l'argent à faire. J'ai un commerce, j'ai un ci, j'ai un ça. Est-ce que je vais me casser la tête pendant des heures pour savoir si une viande est trèfle ou si elle est cachère ? Dans le doute, je m'abstiens. Je suis marmire. Je jette la viande, je ne la mange pas. Je ne fais aucune avéra. Où est le problème ? Nous dit Rav Chaim de Volozhin, il y a un problème. Il y a un problème. D'être marmire et de s'abstenir dans le doute, ça n'est pas toujours bien. Si, par exemple, dans la région où je vis, le minag est de garder 3 heures entre le lait et la viande, je le sais, mais je suis marmire, je décide de faire 6 heures, comme nous dit le Taz, au lieu de 3 heures. Ça peut être bien. Mais si je suis marmire parce que je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas si c'est permis ou interdit, alors dans le doute, j'interdis. Cette Khumra-là, nous dit Rav Chaim de Volozhin, elle n'est pas saoule. Elle n'est pas bien du tout. Elle n'est pas à valider. Une Khumra qui vient de l'ignorance, c'est une mauvaise Khumra. On ne doit pas se conduire comme ça. Où est le problème ? Comme nous l'avons dit en ramenant le Maharal, le but du juif, c'est d'utiliser sa réflexion pour arriver jusqu'au bout de ce à quoi la réflexion peut nous mener. D'aller jusqu'au bout dans la pratique de mitzvot. Il y a encore un autre problème. Si je suis marmire par ignorance, j'ai l'impression que je n'ai fait aucune interdiction puisque j'étais marmire. Je ne sais pas si c'est caché ou trèfle. Je jette tout, donc je n'ai pas mangé de la viande trèfle. Je n'ai pas mangé de la viande trèfle, donc tout va bien. Où est le problème ? Le problème, c'est que si je suis marmire parce que je ne sais pas, je peux aussi faire une avéra. Là aussi, je peux transcrire des interdictions. L'ignorance entraîne l'ignorance. Prenons l'exemple du maaser. Celui qui est marmire et puis qui, au lieu de faire de prélever le maaser sur 10 fruits quand il en a 100, ouais, excusez-moi, le chiffre a changé, il en prélève 15, il a l'impression de bien faire, il a l'impression d'être marmire, mais c'est un ignorant. Parce qu'en vérité, en place de Khumra, il aurait fait une interdiction. Les 5 fruits en plus qu'il aura prélevés seront toujours interdits. Ils ne rentreront ni dans le maaser, ni dans Khoulin. Même chose pour la viande trèfle et pour la viande cachère. Qui dit que j'ai le droit de jeter de la viande et de gaspiller de mon argent comme ça? À plus forte raison, si c'est l'argent du voisin, d'autres diront si c'est l'argent du voisin, c'est beaucoup moins grave. Nous dit le Beit Yosef, au contraire, chas v'shalom. Ne pas gaspiller l'argent du juif, ne pas gaspiller l'argent de mon voisin, de mon prochain. Si lui vient qui ne sait pas si la viande est trèfle ou cachère, et que moi, parce que je ne sais pas, je lui dis jette la viande, je lui fais perdre son argent, est-ce que j'ai le droit? C'est pour ça que l'absence de réflexion, l'absence de pensée, le fait de rester dans le doute et dans l'incertitude, même si on décide d'être martyr, nous mène de manière presque irrémédiable à la faute, à la avéra. C'est pour ça qu'on doit tout faire pour s'éloigner du doute. Tout faire pour s'éloigner du sofek. Aller prendre un rave, un copain, essayer de voir avec eux ce qui est permis et ce qui est interdit. Et surtout, on doit s'investir le maximum dans la réflexion. Parce que c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous a donné la force de penser. Pour justement mener à bien notre vie et faire les mitzvot comme il faut.